histoire que vous connaissez peut-être, qui s'est passée il y a quelques décennies dans une église évangélique de notre pays. C'est le soir de l'étude biblique, de la réunion de prière, et beaucoup de personnes se rendent donc à l'église pour passer ce temps ensemble, pour prier, pour lire. Le pasteur est là pour les accueillir, et ils rentrent comme ils ont l'habitude de le faire. Puis ce soir-là, quand même, ils remarquent que les chaises sont disposées d'une manière qui n'est pas habituelle. Un grand cercle. Puis au milieu, il y a une petite table. Enfin, personne n'ose dire quoi que ce soit. Et tout le monde s'installe, tranquillement. Et quand le pasteur décide à vue humaine que tout le monde est là, il ferme la porte. Il demande à chaque chrétien sa Bible, qu'il prend, qu'il met sur une table au fond de la pièce. Il allume deux petites lampes très discrètes. Il éteint la lumière et il dit: maintenant, ce soir, nous sommes l'Église persécutée. Nous n'avons plus de Bible. Nous allons nous réunir au péril de notre vie. Je vais vous demander de parler à voix basse pour ne pas éveiller peut-être des soupçons dans les maisons qui nous entoureraient. Nous allons prier, oui, et puis nous allons nous exhorter avec ce que nous savons de la parole de Dieu ou ce que nous en aurons retenu parce que nous n'avons plus de Bible. Par cette soirée, cet homme a voulu faire toucher du doigt ce que vivent des chrétiens de par le monde. Bien sûr, cette soirée était tranquille. Personne ne se sentait vraiment menacé, mais son but était de sensibiliser les cœurs et de palper, de pouvoir sentir l'atmosphère, le climat d'un tel moment, de pouvoir se réunir, mais dans le noir, dans l'insécurité, de pouvoir sensibiliser le cœur de ces personnes, nos cœurs, nous qui avons cette liberté de pouvoir apporter la parole de Dieu comme nous le voulons, nous qui avons pignon sur rue de par nos bâtiments d'église, avec écrit bien grand « Église évangélique protestante ». Oui. C'est également le but de cette journée, je dirais, qui est là pour nous aussi nous sensibiliser à cet état de fait qui peut passer inaperçu dans les consciences, mais qui existe bel et bien. L'Église persécutée. Et ce matin encore, sur cette planète, avec le décalage horaire, il y a des personnes qui se sont réunies au péril de leur vie, sous les bombes, dans la crainte. Et cette année, cette journée de l'Église persécutée a une connotation toute particulière parce qu'elle s'inscrit dans le cadre des 500 ans de la Réforme et que la persécution était le lot quotidien des Huguenots. L'Église persécutée a toujours existé depuis sa fondation jusqu'à ce jour. Et elle le sera encore. Quelques versets qui nous ont déjà été présentés pour nous conduire dans ce partage sur l'Église persécutée, dans la lettre d'un auteur aux Hébreux. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit à une église d'origine juive qui avait subi la persécution pendant les premiers jours de son existence. Je vous propose de lire quelques versets très courts en Hébreux 10, 32 à 34. Hébreux 10, 32 à 34, où la parole de Dieu nous dit: « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Et puis Hébreux 13, 3. « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. » Alors ce matin, je ferai assez rapidement trois points. Souvenez-vous de ces premiers jours. Vous avez soutenu un grand combat, vous associant à ceux dont la position était la même. Souvenez-vous des prisonniers. Alors ces versets qui étaient destinés à des juifs, on peut le voir, convertis au christianisme, sonnent toujours d'actualité ce matin sur cette terre. Souvenez-vous de ces premiers jours. La persécution survient souvent dès les premiers jours d'une église. Et je dirais, la persécution survient dès les premiers jours d'une vie nouvelle, éclairée par Dieu. Alors, suivant l'endroit où l'on habite, il y a des changements de vie qui sont liés à une oppression légère, comme dans nos pays, où il peut être question de moquerie, de raillerie, d'indifférence. Et puis, il y a des pays où des religions d'État sont fortement impliquées, où c'est une question de vie ou de mort. On est dans une religion d'État fortement instituée, on doit mourir dans cette religion d'État. Le changement n'est pas permis, il n'existe pas. Pourquoi cela ? Pourquoi la persécution dans certains pays ? Parce qu'on se rend compte que ceux qui se convertissent quittent la croyance suivie par la majorité, d'où la pression de retourner à l'ancienne religion. C'est ce qui se passe dans la majorité de ces pays. Et la lettre aux Hébreux fait partie de ce cadre-là. C'est pour ça qu'il nous est souvent parlé dans la lettre aux Hébreux de Jésus qui est comparé à l'Ancien Testament. Ces Juifs étaient oppressés, étaient tyrannisés, étaient persécutés pour revenir au judaïsme. Et c'est pour cela que l'auteur de la lettre aux Hébreux insiste tant sur la suprématie de Christ. Si vous relisez cette lettre, vous verrez que Jésus est comparé à l'Ancien Testament parce qu'il en est l'accomplissement. L'opposition est particulièrement forte et féroce dans certains pays lorsque ces personnes font le choix de suivre Jésus. Donc on l'a vu, suivant les pays, cette opposition peut être morale, elle peut être physique. La persécution a toujours existé. La persécution est dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit en Hébreux 11 que certains subirent les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis, persécutés, maltraités. La persécution n'est pas quelque chose de nouveau, elle a toujours existé, elle est dans la parole de Dieu. Jésus aussi, et cela a été souligné par un frère tout à l'heure dans sa prière, Jésus a été persécuté, et bien plus, il a été persécuté, il a été haï sans cause. Et de la même manière, Jésus a pu dire, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean 15, 25. Ils m'ont haï sans cause. Jésus a été arrêté comme un criminel, comme un malfaiteur pour une identité. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et c'est ainsi que vous venez m'arrêter avec une armée, avec des armes, avec des bâtons. Pour une identité, Jésus a été mis sur la croix. C'est le seul procès de l'histoire où un homme a été condamné à mort pour une identité. C'est exactement ce qui se passe pour les chrétiens dans certains pays aujourd'hui. Pour leur identité, parce qu'ils sont chrétiens, ils souffrent. Mais Jésus l'avait annoncé. Et voilà pourquoi la persécution va souvent de pair avec la croissance de l'Église. Alors j'avais quelques exemples qui ont déjà été cités. En Inde, les chrétiens subissent souvent la persécution parce qu'ils sont nombreux à quitter l'hindouisme. Et il y a des campagnes de retour à la maison, de reconversion, pour que ces chrétiens reviennent à l'hindouisme. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu la biographie du Sadhu Sundar Singh, cet homme, je dirais l'Indiana Jones des temps modernes de l'évangélisation. Cet homme vraiment qui a vu qui a rencontré Jésus à la manière de Paul sur le chemin de Damas, lorsqu'il a annoncé cela à sa famille. Mais on l'a traité de fou. On l'a sommé de revenir à l'hindouisme. On lui a montré toutes les richesses de la famille, qui seraient à lui s'il reniait Jésus. Mais il a dit, je ne peux pas renier quelqu'un que j'ai vu, quelqu'un qui est vivant, je ne peux pas. Et puis lorsque toutes les dissuasions ont été épuisées, ben on a essayé de l'empoisonner. Et il a quitté sa famille et il est parti évangéliser en Inde. Voilà souvent ce qui se passe. Donc, des personnes rentrent dans les villages, usent de violence, de menaces, obligeant les nouveaux convertis à revenir à l'hindouisme. Dans le monde musulman, tout le monde est au courant. Ceux qui sont le plus persécutés ne sont pas forcément les membres des églises dites traditionnelles, mais les convertis. La plupart des prisonniers chrétiens sont des nouveaux convertis au christianisme. Il y a eu un témoignage lu sur le pasteur Reza tout à l'heure. Et puis il y a cette citation d'un chrétien chinois qui nous dit « Si vous étiez aussi actifs dans votre évangélisation en Europe que nous en Chine, vous seriez aussi persécutés. » Je vous laisse avec cette pensée pour chaque cœur ce matin, pour moi-même. Si vous étiez aussi actifs dans votre évangélisation en Europe que nous en Chine, vous aussi, vous seriez persécutés. On voit que la persécution vient pendant des périodes de réveil, comme au XVIe siècle. Et c'est un sujet qui a été évoqué avec les 500 ans de la Réforme. Nous voulons nous souvenir, il est beaucoup parlé de se souvenir ce matin, des premiers jours des églises protestantes et évangéliques en France. Ils se réunissaient en secret. C'était dangereux de posséder des Bibles. Et on voit les exemples de huguenots persécutés en France au XVIe siècle. Il a été question de Marie Durand tout à l'heure, qui a été emprisonnée à la tour de Constance de 1730 à 1768 pour sa foi. Philibert Hamelin, ancien prêtre français devenu protestant, il a mis en place une imprimerie de Bible à Genève et quand il est retourné en France, il a été condamné à mort et tué. Nicolas Ballon a fait plusieurs voyages de contrebande entre la Suisse et la France pour passer des Bibles et il a été arrêté et tué en 1556. Pourquoi est-il important de se souvenir de cette persécution qu'ont vécu nos pères dans la foi? L'exemple de l'Église persécutée peut nous encourager et nous motiver à vivre en Christ aujourd'hui. Nous sommes toujours dans un combat, même si nous avons l'impression que pour nous, le combat, c'est vrai, est bien léger parfois, mais nous sommes dans un combat. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte les chrétiens à se souvenir de leur persécution afin d'y puiser le courage pour pouvoir continuer dans le présent et le futur. Vous avez soutenu un grand combat, point 2. Après avoir été éclairés, les chrétiens auxquels s'adresse l'Épître avaient soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Ils avaient été exposés, nous dit la parole, à l'opprobre, à la honte, à des afflictions de tout genre, privés de leurs biens, peut-être battus, jetés en prison. Alors, de quel combat s'agit-il ? Le terme est une métaphore sportive, souvent reprise par Paul. La vie chrétienne demande un effort, nous dit Paul, et impose des souffrances. La persécution est l'un des obstacles que nous devons affronter et qui engendre des souffrances, et ce, même s'il y a de la joie à souffrir pour Christ. Nous ne sommes pas encore confrontés à ce genre de situation. Le serons-nous un jour ? Peut-être, mais nous devons avoir en pensée que cela peut nous arriver. Ce sont deux réalités dont il faut tenir compte, la réalité de la souffrance et la réalité de la joie dans la persécution. Vous allez me dire, mais comment ces personnes, ces Hébreux, ont-ils pu agir de la sorte? Comment ces chrétiens aujourd'hui qui sont maltraités, qui sont au fond des prisons, à qui on enlève tout leur bien, à qui parfois on exécute quelqu'un de leur famille sous leurs yeux, peuvent tenir? Comment? Nous pensons avec notre intelligence, mais cela se passe sur le terrain. La parole nous dit, ils savaient qu'ils avaient des biens meilleurs et qui durent toujours. Ce n'est qu'à la lumière et au regard de l'espérance de Jésus mort pour nos péchés à la croix, de Jésus ressuscité pour notre justification, de Jésus qui revient pour nous prendre avec lui, que tout cela peut avoir un sens. Parce que comme nous dit l'apôtre Paul, si c'est en Christ sur cette terre uniquement que vous avez de l'espérance, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. L'enfant de Dieu sait que voyageur ici-bas, il a son trésor dans le ciel. Ailleurs, étranger et voyageur sur cette terre. Voilà ce que nous dit, ce que Dieu nous dit, ce que nous sommes. On a souvent l'habitude de bien s'installer ici-bas, mais nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. C'est une réalité. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir et dans laquelle une place nous est réservée, où nous passerons l'éternité. Voilà, tout va passer ici-bas. Tout va passer. Alors nous voyons que la persécution prend des formes différentes. Elles ont déjà été citées par Gilles, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. On voit les attaques publiques par des accusations mensongères, des diffamations, on salit les vies. On est l'exemple d'une jeune femme en Indonésie qui a choisi de suivre Jésus. Et lorsqu'elle parle à ses parents de sa conversion, elle est chassée de la maison du village. Et plus, en plus de ce terrible rejet, les parents font courir la rumeur qu'elle est devenue prostituée, leur fille. On salit sa vie, on salit sa personne, oui, pour le nom de Jésus. Et puis, il y a l'exemple qui a été lu par Gilles tout à l'heure de ses deux sœurs en Inde, Mehena et Sunita, qui ont été battues, qui ont été chassées du village et qui maintenant vivent de manière itinérante. Il y a également la discrimination économique. Dès l'école, on refuse de donner de bonnes notes. Les enfants de familles chrétiennes doivent s'asseoir au fond de la classe. Ou au village, les commerçants pratiquent des prix plus élevés pour les chrétiens. Au Pakistan, les chrétiens sont enfermés dans des quartiers ghettos. Ça nous rappelle une certaine époque qui n'est pas si loin que ça. Et assignés aux métiers les moins valorisants. Alors, tout à l'heure, Gilles a cité quelques exemples. Et au regard de la réforme, un rappel historique, où on voit que hier, sous Louis XIV, qui a révoqué l'édit de Nantes, eh bien, une nouvelle vague de persécution est arrivée en France après 100 ans d'alcalmie relative, démolition des temples, interdiction du culte protestant, conversion forcée, condamnation à l'exil ou aux galères, défense d'enseigner la foi réformée aux enfants. Et aujourd'hui, 215 millions de chrétiens sont gravement persécutés et connaissent les mêmes persécutions que celles vécues par les Huguenots. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Poussé à l'exil, hier, de 1685 à 1765, on estime qu'entre 200 et 300 000 protestants ont quitté la France et ils ont trouvé asile dans des pays refuges, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne. Et cet exode a beaucoup bouleversé l'économie française. Aujourd'hui, le nombre des réfugiés chrétiens explose. En Irak, 100 000 chrétiens ont quitté leur pays depuis 2014. En Syrie, plus de 300 000 ont aussi pris le chemin de l'exil. Et au Nigeria et au Cameroun, des milliers de chrétiens ont fui la violence de Boko Haram. Discriminer, la devise de Louis XIV, un seul roi, une seule loi, une seule foi. Aujourd'hui, la devise des nationalistes hindous au pouvoir en Inde, une seule nation, un seul peuple, une seule culture, une seule religion. Obligés de se cacher, hier les protestants sont obligés de vivre leur foi de manière clandestine. Ils se retrouvent dans les forêts, les grottes, cette période qu'on appelle la période du désert, durera un siècle. Et aujourd'hui, dans de nombreux pays, les chrétiens sont obligés de se cacher pour vivre leur foi. Pas d'accès à la Bible. Hier, au temps des Huguenots, les Bibles étaient interdites et la vente de Bibles passive de la peine de mort. Alors on invente d'ingénieux systèmes pour les cacher. Bibles minuscules, cachées dans les chignons, cachettes aménagées dans les meubles, dans les maisons. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, posséder une Bible est toujours très dangereux. En Corée du Nord, le possesseur sera envoyé en camp de travaux forcés avec toute sa famille. Aux Maldives, il n'est pas légal pour un Maldivien d'en posséder une. En Iran, les Bibles en farsi, langue nationale, ne sont pas autorisées. Point 3, vous associant à ceux dont la position était la même. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de deux caractéristiques qu'il voit chez ces chrétiens destinataires de cette lettre. D'une part, leur courage sous la persécution, et d'autre part, leur solidarité envers ceux qui étaient persécutés. Et l'Église aujourd'hui, cette Église dont nous faisons partie, n'est-elle pas toujours appelée à vivre l'une de ces alternatives ? Soit de vivre la persécution elle-même, soit de s'engager pour d'autres qui sont persécutés. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit l'Église vit dans une relative paix avec ses problèmes internes, hélas, qui sont humains, soit elle vit la persécution. Il n'y a pas d'autre alternative. Comment alors s'exprimait la solidarité des Hébreux ? Les chrétiens dont nous parle l'Épître aux Hébreux ont manifesté un engagement public pour l'Église persécutée. Les prisonniers pouvaient même mourir de faim, à moins que leurs amis ne leur apportent de la nourriture. Et on a l'exemple des prisonnières de la cour de Constance, où il y avait Marie Durand, détenue après la révocation de l'édit de Nantes, qui dépendait de l'argent collecté à l'étranger pour pouvoir s'acheter des vêtements et manger. En Érythrée, plusieurs centaines de chrétiens sont emprisonnés dans les pires conditions possibles en raison de leur foi. Pour manger, ils dépendent de leurs proches. Ces derniers, en venant leur apporter à manger, se font immanquablement remarquer par les autorités. Et la parole nous dit « Souvenez-vous ». Qu'est-ce ce souvenir ? Tout acte de bienveillance, tout service aimant, tout amour pratique, tout engagement de cœur nécessite que ceux que nous aimons soient inscrits dans notre mémoire. Dans l'Ancien Testament, il est rappelé 109 fois « Souviens-toi ». Il y a une raison, n'oublie pas, souviens-toi. Souviens-toi des pauvres, souviens-toi des vieillards, des conducteurs spirituels, de ton conjoint, de ta jeunesse, des paroles prononcées dans le passé, de ton éducation, de la foi transmise par tes pères, de Jésus-Christ ton sauveur et rédempteur. Souviens-toi. Le plus grand reproche que Dieu a fait à son peuple, et c'est écrit dans la parole, ils mirent en oubli mes œuvres, mes merveilles que je leur avais fait voir. Souviens-toi. Aimer, c'est d'abord garder en mémoire. Aimer, c'est d'abord garder en mémoire. Se souvenir signifie prier, intercéder, soutenir matériellement quand on le peut, même avec de petites choses. Jésus a parlé d'un verre d'eau donné en son nom. Marqué de la fidélité. La mémoire, c'est l'intelligence du cœur. C'est la dimension haute de l'amour de Dieu à qui rien n'échappe. Dieu, lui, n'oublie jamais personne. Il prend soin de l'Église, de son Église, même celle qui souffre. Quelqu'un disait, vous savez, Dieu, plus on l'étouffe, mieux il respire. Dieu est souverain. Dieu bâtit son Église. Même à travers des incompréhensions que nous pourrions peut-être avoir, Dieu est souverain. Dieu bâtit son Église. Comment pouvons-nous nous identifier aux chrétiens persécutés ? Parce que nous avons vu là du théorique, de ce qui se passe. Mais comment nous pouvons ? Alors, il y a plusieurs moyens. Tout d'abord, porte ouverte, pour ceux qui connaissent. Par le biais du fil rouge, envoie une lettre hebdomadaire à des personnes qui se seraient inscrites sur leur site. Et dans cette lettre, il y a des événements sur l'Église persécutée, des bénédictions, mais aussi des événements plus durs. Et à la fin de cette lettre, il y a trois petits points où il nous est demandé de prier pour cela. Chacun peut le faire. Chacun peut s'abonner, je dirais entre guillemets. C'est un email qui est envoyé gratuitement et que chaque frère, chaque sœur bien peut recevoir. Parce que pour se souvenir, il faut savoir. Si on ne sait pas, de quoi peut-on se souvenir ? Pour se souvenir, il faut savoir. Et puis Dieu peut nous mettre à cœur une personne précise dans une de ces lettres. Et on peut prier pour elle. Ce qui compte, ce n'est pas l'élan émotionnel qui fait qu'en une semaine, nous voudrions tout faire. C'est dans le temps, dans la durée. Souvenez-vous, c'est dans le temps, c'est dans la durée que tout cela peut être efficace. Et puis, signer des pétitions. On voit que cette année, je ne sais pas si certains d'entre vous ont reçu leur ordinateur, Porte Ouverte avait mis en ligne une pétition à signer qui allait jusqu'à l'ONU. C'est toujours intéressant de pouvoir montrer que nous sommes derrière ces frères dont l'identité est bafouée, dont la vie est menacée et qu'ils ne sont pas seuls. Nous pouvons également envoyer un message d'encouragement à nos frères et sœurs persécutés, c'est possible. Pour montrer notre solidarité, on peut envoyer aussi une petite photo via une application smartphone sécurisée. Il y a là des renseignements, vous pouvez demander à vos responsables d'église. C'est très simple. Surtout aujourd'hui avec les appareils que nous avons. Combien c'est important pour ces frères et sœurs de savoir qu'on ne les oublie pas. Tout à l'heure, dans cette vidéo qu'on a vue, il y a une femme qui avait une pancarte désespérément, « Priez pour moi ». Ne pas les oublier. Souvenez-vous, souvenez-vous. La prière est bien évidemment une autre façon de nous associer à nos frères. Et elle est souvent le moyen le plus efficace et parfois le seul pour venir en aide à nos frères et sœurs dans la foi. On mésestime trop souvent la puissance de la prière. Et pourtant, la prière est toute puissante pour pouvoir changer les circonstances, les cœurs, les vies. Et comme il a été dit tout à l'heure, n'oublions pas également de prier pour les dirigeants et puis pour les persécuteurs, pour les bourreaux. C'est parfois plus difficile à le faire, mais Jésus est mort également pour ces personnes-là. Paul lui-même, s'adressant aux Colossiens dans sa lettre, leur dit « Souvenez-vous de mes liens, souvenez-vous de mes chaînes. N'oublions pas, souvenez-vous. Nous faisons partie du même corps. » Il a été dit en ce début de culte, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Avons-nous conscience vraiment en esprit que nous sommes tous de la même famille et que nous allons passer l'éternité ensemble? Et même si nous sommes absents physiquement avec ces personnes, comme disait Paul, nous pouvons être présents avec eux en esprit par la prière. En suivant leur vie, en suivant les renseignements qui peuvent nous être envoyés par les méthodes modernes que l'on a aujourd'hui, afin, comme la parole de Dieu nous le conseille et nous le dit, de ne pas oublier. Souvenez-vous des prisonniers, souvenez-vous, c'est Dieu qui nous parle, c'est sa parole qui nous le dit, souvenez-vous. Je vais conclure par deux petites notes de Porte Ouverte, en mot de conclusion. Enfin, n'oublions pas que les chrétiens persécutés, eux-mêmes, prient pour nous. La solidarité de l'Église s'exprime ainsi dans les deux sens. Et Dieu peut mettre à l'épreuve la rudesse de notre cœur, ces situations désespérées, afin que nous puissions manifester notre amour pour eux. On le fait facilement pour quelqu'un qui souffre dans l'Église, dans notre Église, dans notre petit périmètre. Mais notre famille est bien plus grande. Notre famille va bien plus loin. Les chrétiens d'Asie et d'autres pays, même de Corée du Nord, le pays où les chrétiens sont le plus persécutés, nous ont fait savoir qu'ils priaient pour la France et l'Angleterre lors des attentats terroristes. Inspirons-nous de ces frères qui souffrent, dont l'avenir est incertain, dont ils ne savent pas de quoi demain sera fait, qui vivent à chaque jour suffit sa peine, mais qui ont le regard fixé sur Jésus, qui prient pour nous. Ça paraît démesuré, ça paraît paradoxal, qui sommes dans une certaine abondance, parfois dans un certain relâchement. Ils prient pour nous, que cela vraiment puisse nous inspirer à en faire de même pour eux. Souvenez-vous des prisonniers. Que le Seigneur bénisse sa parole.